Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie autour du dernier numéro. Alors, dernier numéro sur lequel on voit bourgeonner des têtes un petit peu intimidantes, mais qui risquent d'être de plus en plus présentes. Alors, autour de la table, pour parler de tout ça, du numéro, ce qu'il y a dedans, et puis des grandes problématiques du monde, de façon générale, comme à chaque fois, nous avons à ma droite Lorraine Redeau.
Bonjour.
Lorraine Redeau, spécialiste des réseaux, spécialiste de tout un tas de choses. Celui qui me regarde un peu bizarrement, avec la mâchoire qui frissonne, comme s'ils allaient me sauter dessus, ben c'est bien sûr monsieur Antonio Fischetti. Alors, cinéaste, homme de médias, homme de théâtre, polémiste.
Oui.
Oui, voilà, toute simplicité.
Sexologue.
Alors, Gérard Billard qui a le vent en poupe, hein, puisque la country est partout en ce moment, c'est le nouveau phénomène.
Voilà, c'est ça.
La country, on en dira peut-être un mot. Alors, elle relit son papier, non. Parce qu'elle va devoir en parler. Ben, c'est Lord aussi. En face de moi,
donc,
écrivaine, intervenante à la chaîne parlementaire, des choses comme ça. Hein, ça se... Donc il y a une surface qui s'élargit, hein, pour l'ordre aussi. Et celui qui a un petit sourire, son bon regard bleu, c'est bien sûr Rhys.
Bon, Rhys. Bah, bonjour. Bonjour, monsieur.
Tu prépares quoi tu...
Rien du tout. Moi...
Bon, est-ce que tu veux parler un petit peu de la une? Parce que Laure, elle aime bien qu'on dise comment la une s'est un petit peu constituée.
Je ne m'en souviens même plus.
Tu es un peu l'arbitre des élégances. Alors,
non, mais c'est Salch qui a eu cette idée de
printemps, dessiner... finalement.
Ouais, voilà, voilà les islamistes qui bourgeonnent. Voilà. Puis graphiquement, c'était amusant. Quoi. C'est un peu l'air du temps. Voilà.
C'est l'air du temps que nous avons encapsulé en un dessin, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait pu parler de l'attentat en Russie, mais comme on avait déjà fait la couve de la semaine passée sur Poutine...
Voilà, on n'allait pas la refaire.
Voilà, et qu'on s'est dit, bah, il y aura peut-être un attentat d'ici là. Donc voilà, en bon boutiquier, on s'est dit, on va faire un truc un peu générique.
Et puis en plus, l'attentat en Russie, on n'a rien à dire. On est tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Alors,
cet attentat, nous le condamnons.
Voilà,
donc, voilà, nous condamnons officiellement, nous prenons
le débat.
On en déplaise à certains, cet attentat, nous le condamnons.
Voilà.
Alors toi, tu as la parole. Alors, garde-la, parce que tu nous parles des mathématiques dans ce numéro.
Oui, un peu, oui.
Mathématiques et Miss France.
Bah oui, parce que Gabriel Attal a érigé Miss France au rang d'ambassadrice officielle des mathématiques parce qu'elle est en deuxième ou troisième année de fac de maths.
Elle n'est pas en prépa.
Non, mais alors bon, c'est très bien.
Alors,
mais simplement, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que on espère vouloir redonner le goût des maths aux filles, puisqu'elles sont très minoritaires. Il y a à peu près 20%, je crois, dans l'enseignement supérieur d'enseignants-chercheurs féminins en maths. Et c'est encore pire, avec la nouvelle réforme du lycée, le nombre de filles dans les classes de terminale qui font plus de 6 heures hebdomadaires de maths a diminué vraiment en chute libre. Tout simplement, c'est à cause de la nouvelle réforme qu'ils ont faite.
Parce qu'on doit choisir sa matière.
Parce que voilà, c'est des classes d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut être très bon et avoir des maths de très haut niveau. Donc tous ceux qui sont un peu moyens, ben, c'est délaissent les maths. Et donc ça va être encore pire avec les fameux groupes de niveau. Puisque ces groupes de niveau, on va faire des bons, des moyens et puis des mauvais. Donc les filles risquent, comme elles sont déjà défavorisées, d'être encore plus pénalisées.
Je crois qu'on va parler de groupes de besoin.
Voilà, que soit le nom qu'on leur donne. Mais et dire...
Ah, de la country, c'est Gérard.
Laissez entendre que on
téléphone
va
de Gérard.
Valoriser donc les maths mais Gérard alors enfin
la country a décidément le vent en poupe, je ne l'avais pas menti. Donc, les groupes de niveau,
croire qu'on va arranger les choses en nommant Miss France ambassadrice des maths. Enfin, vraiment, c'est sous de la gueule du monde, quoi. Et puisqu'en plus, il manque pas de mathématiciennes, de figures féminines à valoriser. Hein. Sophie Germain, Émilie Duchâtelet. Donc voilà, valoriser les vrais scientifiques.
Et Miss,
alors qu'on pourrit le boulot des scientifiques en détruisant aussi leurs conditions de travail, etc. Dans l'université, c'est bien connu. Donc tout ça, c'est de l'esbrouve, c'est des paillettes. Donc,
est-ce que tu ne crois pas plutôt que Yvon Attal, c'est plutôt son message, c'est plutôt de
Gabriel.
Gabriel Attal, de dire aux filles qui sont bonnes en maths, mais soyez plutôt Miss.
Ben voilà, c'est ça.
D'engorger les classes.
Oui, parce que je parle justement d'études qui ont été faites en psychologie donc comportementale, qui montrent que quand on brouille le message avec deux domaines comme ça différents, comme c'est-à-dire les Miss France, c'est-à-dire, bon voilà, ce qu'on sait, hein, le concours plutôt quand même, malgré tout, même s'il y a des valeurs à défendre, des causes à défendre, c'est quand même avant tout physique, hein, et donc d'une carrière dans les maths, ça ne profite pas, l'un ne profite pas à l'autre, c'est-à-dire une nana bonne en maths va pas se dire, ah bah tiens, je vais devenir Miss France, et inversement, une nana qui rêve de devenir Miss France va pas se dire, tiens, tout d'un coup, je vais me passionner pour les maths, non, si on veut donner le goût des maths, bah, faut valoriser les maths en tant que telles, les figures féminines, pourquoi pas, de chercheuses en maths, il n'en manque pas en France, donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment de l'esbrouf, au moment où, au contraire, on dégrade de plus en plus les carrières scientifiques, avec ces fameux groupes de besoins, dont tous les enseignants disent que ça ne va faire qu'empirer les choses pour les élèves déjà un petit peu en difficulté dans les sciences, surtout.
Mais d'ailleurs, cette semaine, je crois qu'il y a un prix qui a été remis pour un mathématicien, et c'est un Français qui l'a reçu, le prix, je sais plus quoi, t'as pas vu, là ?
Ah ben, j'ai pas le temps de voir, là, cette semaine, là. Bon.
Et bah, c'est pas...
Si je non, 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 bah, hein, tu ne vous connais pas, voilà. Tu vas être à l'onglerie pendant ce temps-là. Donc, te faire une mise en pli.
Comment s'appelle ce prix ?
Non, c'est assez complexe, ouais. Et puis le gars est bizarre.
Ouais. C'est vrai que quand tu le vois...
Tu connais pas non plus, en fait.
Si, je connais.
Quand tu le vois, c'est pas une miss, tu vois.
Non, oui. Il est assez chevelu et hirsute. Visiblement, il prend pas très bien soin de lui.
Non, mais les maths sont belles et nobles. En tant que telles, on n'a pas besoin d'avoir une Miss France pour donner envie. Et d'ailleurs, je cite l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gabriel Attal devrait prendre exemple sur la Côte d'Ivoire où il y a un concours de Miss Mathématiques. Donc, c'est un concours réservé aux filles uniquement et basé uniquement sur les maths. Et la lauréate reçoit une couronne. C'est le seul point commun avec Miss France, mais surtout de l'argent pour faire ses études. Et donc, c'est vraiment une valorisation uniquement pour les maths et pour les filles. Et c'est la Côte d'Ivoire qui le fait. Donc, on ne s'attendrait pas à voir un pays comme ça à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité des sexes dans les maths.
Ah ben, comme quoi, tu vois.
Ben voilà. Voilà. Donc, on peut passer à un autre sujet.
Non, je veux dire.
Sans transition. Tu veux dire quoi, sans transition ?
J'aimerais toujours la belle mathématique. Bon. Comme disait
ensuite,
Stendhal.
Ensuite.
C'était ta spécialité aussi.
Stendhal était mathématicien aussi. Oui, je suis aussi mathématicien. Mmh. C'est pour ça que j'étais un petit peu ronchon, parce qu'il y a un prix qui vient de m'échapper cette semaine. Alors, Laure, toi, tu nous parles d'autre chose. Tu nous parles de alors, on est en époque de ramadan, donc tu nous parles de comment aller voler dans les placards pendant le ramadan.
Oh là, c'est un peu ça, alors, hein, bon, oui, on est en période du mois du ramadan, effectivement. Et en fait, j'ai été contactée par des apostats. Donc, c'est ainsi qu'on nomme des personnes qui ont été élevées dans la religion musulmane, mais qui décident de ne plus être croyants. Et en fait, un certain nombre d'apostats, pour eux, cette période est synonyme de pression, cachette et de peur presque,
parce
parfois
qu'il y a
d'être
repérés. Ils n'ont pas dit en fait qu'ils n'ont
absolument,
pas.
Absolument, voilà, qui... parce que beaucoup risquent d'être menacés, exclus par leur famille, ostracisés. Et donc, c'est une période toute particulière pour eux parce que ceux qui sont considérés comme étant musulmans se doivent absolument de faire le ramadan. Donc j'ai recueilli le témoignage de plusieurs d'entre eux. Ils m'expliquaient notamment que le ramadan est un des cinq piliers de l'islam, on le sait, mais c'est celui qui est le plus respecté. Donc voilà, c'est possible d'être
un peu relâché sur
et de boire de l'alcool,
la prière, etc.,
ou de ne pas faire la prière, mais le ramadan, c'est vraiment incontournable. Et donc on attend d'eux qu'ils le fassent. Et donc, or, quand ils sont apostats, ils ne souhaitent pas le faire, de fait. Et donc ça suscite pour eux tout un tas de pressions. Et donc ils racontent les stratégies qu'ils ont pour manger malgré tout en cachette. Et le plus compliqué, c'est aussi pour les plus jeunes, parfois, ceux qui n'ont pas d'argent pour pour manger à une cafétéria parce que leurs parents ne leur donnent pas, parce qu'ils pensent qu'ils devront faire le ramadan. Voilà.
Ce sont des jeunes apostats.
Absolument. J'ai
souvent, les jeunes, ils sont assez calotins. Les jeunes, ils aiment bien la religion, généralement.
Mais comme quoi, voilà.
Ouais, ça peut toucher tout le monde.
Tous les jeunes ne sont pas religieux.
On n'est jamais à l'abri de...
Voilà, on n'a jamais l'abri de tomber sur un apostat. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires, c'est sûr. Ils se retrouvent entre eux, notamment sur un Discord dont j'ai déjà parlé dans un précédent reportage, pour se soutenir entre eux, pour échanger entre eux sur leur parcours.
Oui,
c'est une espèce de
réseau
social très protégé, parce que justement ils se sentent en danger. Et donc ils se retrouvent, ils sont un petit millier comme ça d'apostats français.
S'échanger des trucs pour voler.
Voilà,
de la nourriture.
Et voilà, et donc c'est à la fois minoritaire, mais donc ils sont minoritaires, mais c'est vrai qu'on en parle très peu. Ils se sentent abandonnés, exclus de la parole publique, parce que c'est vrai qu'on parle assez peu d'eux dans les, médias.
Qu'est-ce qu'on risque si on est pris à manger pour le Ramadan? Je crois qu'on peut récupérer certains jours.
Il y a pas de alors contrairement, par exemple, j'ai le témoignage aussi de Betty Lashgar, c'est une des rares qui parle sous son nom, qui est une militante, une féministe connue et une activiste athée, et qui a elle, qui est originaire du Maroc, qui avait organisé un pique-nique en plein Ramadan exprès pour se mobiliser contre parce que vous demandiez ce que l'on risque, et là au Maroc on risque effectivement quelque chose, c'est condamné par la loi. Voilà, heureusement évidemment en France ça ne risque rien, c'est juste l'opprobre de certains proches, éventuellement. Voilà, pour des personnes qui évoluent dans un contexte plus rigoriste.
De décevoir des amis,
voilà.
Par exemple.
Et puis, il y a des témoignages aussi donc, de tout jeunes qui ont des pressions. Donc là, ce n'est pas forcément des jeunes apostats, c'est juste des tout jeunes qui sont dans des familles où Ramadan n'est pas forcément suivi. Et donc, j'ai témoignage d'une jeune qui me dit que sa petite sœur, qui est en CM2, qui va dans sa famille, ils ne font pas le Ramadan, mais la petite sœur en CM2 a des réflexions d'autres camarades de classe. Pourquoi tu fais pas le Ramadan, voilà. Donc il y a une pression qui s'exerce parfois.
Parce que tu
jeune.
Parles justement de la prégnance de la religion à l'école, encore une fois.
Voilà. Et une mère de famille, par exemple, qui est originaire de Tunisie, qui donc a été élevée dans la religion musulmane, qui souhaite ne pas élever ses enfants dans la religion, qui souhaite qu'ils fassent eux-mêmes la démarche de décider dans quelle religion ils évolueront, et eh bien cette mère de famille se plaint parce que dans l'école primaire dans laquelle elle a mis ses enfants, en l'occurrence une école à Creil, alors il n'y a pas forcément de pression par rapport au Ramadan, mais il y a eu d'après elle une prière qui a été organisée dans la cour de récré le premier jour du Ramadan par d'autres élèves, et c'est sa fille qui a rapporté ça, et elle dit mais c'est pas normal, je mets pas ma fille dans l'école publique pour qu'elle suive une prière dans la cour de récré.
Il y a même des professeurs à qui on dit de plutôt faire des examens le matin plutôt que l'après-midi.
Oui, alors il y a eu un mail comme ça dans un établissement qui en effet d'un chef d'établissement qui a suggéré au personnel éducatif de ne pas faire d'examen l'après-midi pour éviter que les enfants, les élèves soient trop épuisés, et de les faire plutôt le matin. Voilà, ça pose question. Est-ce que c'est une entorse à la laïcité? Est-ce que c'est une forme de pragmatisme prendre en compte aussi la situation des tout jeunes? Voilà. Toujours est-il que le ministère de l'Éducation nationale que j'ai contacté dit qu'il n'y a absolument aucune consigne en la matière. Et bien au contraire, il n'y a pas du tout, disent-ils, à s'adapter à cette période-là. Et évidemment, l'école ne reconnaît quelque part aucun culte et ne va pas modifier quoi que ce soit.
Dans les écoles, il y a quand même une sorte d'adaptation au cours de sport, etc., à tout ça.
Dans le mail que j'ai récupéré, effectivement, le chef d'établissement propose dit bien que les élèves doivent suivre le cours de sport, mais qu'ils peuvent être dispensés, c'est-à-dire qu'ils doivent être là.
C'est un motif de dispense. Faire le ramadan devient un motif de dispense.
Mais il ne faut pas le généraliser non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un motif de dispense officiel et mis en place par l'éducation nationale.
C'est un
établissement qui écrit ça, mais le ministère, à l'inverse, dit qu'il n'y a aucun motif de dispense.
Bon Gérard, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Cette prégnance de religieux dans les cours de récréation et partout.
C'est pas une nouveauté. Ça fait un moment qu'on le dit. Sauf que bon, on constate à chaque témoignage que ça devient de plus en plus non pas des exceptions, mais presque des choses qui se systématisent.
Oui, parce que maintenant il convient d'avoir déjà une religion, parce que ça devient la question qu'on pose, c'est quoi ta religion?
C'est ce que me disait cette mère de famille. Elle me disait c'est la première question qu'on a posée à ma fille, c'est quoi ta religion? Et elle, limite, elle s'était chamaillée avec d'autres camarades de classe. Mais si, t'as forcément une religion.
Comme dans le système belge dont on parlait la fois dernière, où on a le choix entre 7 religions à coucher.
C'est en train de devenir une part. La première part de l'identité.
Oui, c'est ça. C'est notre identité, donc il faut la respecter parce que justement, c'est partie de nous-mêmes, etc. C'est plus quelque chose un petit peu à part ou quelque chose à dissocier.
C'est juste une opinion, une religion. Faut arrêter de dire autre chose.
Oui,
c'est une idée, c'est une opinion, voilà.
Comme l'apostasie, il faudrait peut-être arrêter de. Non.
Ouais.
Enfin, il y a quand même une différence entre opinion et croyance, quoi. C'est-à-dire, c'est...
tu vas avoir
une opinion, par exemple... ouais, une opinion, par exemple, je pense que, je sais pas, il vaudrait mieux plutôt de gauche ou de droite. Parce que tu as argumenté, alors tu peux avoir une opinion de droite argumentée, une opinion de gauche argumentée, c'est une opinion. Alors que là... c'est une croyance qui n'est pas de l'ordre de l'argumentation, quoi, tu vois.
Je crois c'est une opinion qui n'accepte pas de contradiction.
Non, mais c'est... une différence entre opinion et croyance.
Non, mais c'est une révélation.
Une croyance, c'est pas forcément...
C'est une révélation, c'est-à-dire que
croyance,
tu adhères à...
une opinion, tu peux l'argumenter, la discuter avec des arguments pour, contre, qui est de l'ordre de la raison, alors que la croyance, elle n'est pas de l'ordre de la raison.
Mais la croyance...
la différence entre opinion et croyance.
La croyance, tu adhères, tu démontres pas.
Tu adhères, tu ne démontres pas. C'est de l'ordre aussi de l'intellect pur.
C'est un contrat d'adhésion, comme les assurances.
Il y en a un qui leur relève de la raison, l'autre... t'as rien à dire, le mec qui croit en Dieu, t'as rien à lui dire. Le mec qui pense « je suis plutôt de gauche », tu peux lui dire « non, moi je suis plutôt de droite », et il réciproquement. Voilà,
ouais, enfin, ça dépend avec qui. Hein,
tu ça dépend ça. Avec
qui. Bon, mais dites-nous, monsieur Foulz,
qui peut démontrer que Dieu n'existe pas. Voilà.
Non, mais tu peux être visité par certains hommes politiques, comme tu peux être visité par Dieu ou l'Esprit Saint. Par exemple, moi, j'ai eu l'apparition de Georges Pompidou. Et ben, tu vois, c'était malgré moi.
Ah bon ?
Et je suis maintenant habité par cette espèce d'amour pour Georges Pompidou qui est en dehors de toute raison.
C'est pour ça que tu t'es mis comme ça, d'ailleurs.
On te confirme. On te confirme. Oui, en dehors de toute raison.
Bon, dites-nous, toi qui fais parler les autres, tu vas parler de nous. Où est-ce que tu as été la semaine dernière ?
Eh bien, moi, la semaine dernière, j'étais à Marseille.
Marseille, voilà.
Marseille.
Qu'est-ce que tu as vu à Marseille ?
Marseille, c'est 3h30 de.
Oui, bon, ça d'accord. Tu vas pas nous faire les horaires de la SNCF.
Et
une fois que tu étais là-bas,
épique.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais attends, avant d'y aller, c'était épique, non ? Pour caler le reportage.
Voilà, le problème, c'est que.
Ça, dans le reportage, il faut caler le reportage avant.
Absolument.
Marseille, quoi le sujet du reportage ?
Eh ben, c'était les Roms, et plus précisément les enfants Roms, c'est-à-dire ces enfants qu'il faut scolariser, mais qui sont tellement ballottés de bidonvilles, en lieu de précarité, vraiment, qu'il est très difficile d'abord de les trouver et après de les amener vers un parcours scolaire. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui a pris pour mission, à travers l'association, de faire ça. Donc elle va vraiment dans tous les interstices de la société où on trouve justement ces gens, des familles roms, etc. Donc ça peut être dans des squats, dans des machins. Donc je les décris un petit peu dans mes pages. Et donc voilà. Et donc elle va auprès des petits, puis elle fait les démarches administratives, et puis mais pas que, parce que ça peut être aussi des démarches on va dire de santé, ça peut être elle a beaucoup d'administratifs. Et puis beaucoup de, voilà, c'est 10 ans de confiance avant de pouvoir approcher. C'est pour ça que c'était un petit peu, c'est très bien de le faire, un peu inespéré d'avoir justement ce contact avec des gens qui vivent cachés et qui vivent justement un petit peu méfiants de toutes les choses extérieures.
Tu as réussi à les mettre en confiance puisque tu les as même fait dessiner sur ta tablette.
Je les ai fait dessiner sur ma petite tablette spéciale reportage. Et oui, ben, c'est des enfants justement étonnants parce que c'est, comme je disais, c'est des enfants sans jouets. C'est-à-dire que je passe une journée avec des enfants dans différents lieux, j'ai pas vu un jouet, j'ai pas vu une petite poupée, j'ai pas vu une bicyclette, j'ai pas vu un ballon. C'est des enfants silencieux et sans jouets.
Avec des boîtes de conserve ou
non, mais non, pas, non, c'est même pas bâtons, ça. Non, ce sont des enfants.
Il faut quand même tous les enfants vous, même si
très peu turbulents, très peu.
Moi, je suis allé dans plein de bidonvilles, j'ai toujours vu des enfants qui jouent avec ces bouts de bois, avec des.
Même nous en Bretagne, on joue avec des bouts de bois et puis on avait une orange pour Noël. Si tu veux. Mais là, non, mais même pas.
Tu disais qu'ils vivent un peu dans des endroits cachés, dans des interstices, dans des endroits. On passe à côté d'endroits et on n'imagine pas que juste à côté, il y a
des familles. Il y a une passerelle de pont et un des piliers qui tient la passerelle, il y a une porte et on ouvre la porte, on rentre et on tombe sur, dans un petit réduit, une famille qui est là sur des matelas.
À l'intérieur d'un pilier de pont.
Oui, voilà.
Ah oui.
Donc là, si tu le sais pas, et là, c'est parce que la famille, en confiance avec la fille Jane Bouvier, en confiance avec elle, elle a eu son numéro de téléphone et elle a appelé pour dire on est là. Parce que sans quoi, tout le monde passerait là sans jamais avoir notion de rien. Donc,
et toi, tu es entré là-dedans.
Avec elle. Voilà, donc,
bravo.
Et dans des cités marseillaises, justement, où ça tombait bien que ça soit Ramadan, puisque justement, il n'y avait plus le service de sécurité des guetteurs et des barrières pour entrer. Donc on a réussi à rentrer et aller voir justement des familles qui vivent aussi là dans des cités, mais les cités sont marseillaises mais abominables, enfin le truc
Qu'est-ce qui t'a choqué ? Délabrement ?
Le délabrement des parties communes, après les appartements sont incroyablement, il n'y a rien, le dénuement, les murs en béton brut, enfin il n'y a aucune aucune commodité. C'est... Tout est cassé, toute la moindre poignée de porte est cassée, bien entendu. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'est très dur. Hein.
Mais c'est des immeubles abandonnés ou des immeubles qui sont en
location? Non, c'est des immeubles qui sont en fonction. C'est
en fonction.
13 habitats, quand même, Marseille. C'est géré par la mairie ou par je ne sais pas quoi. Donc, c'est ces cités-là. Donc, elle me racontait une anecdote. C'est qu'elle avait été justement avec un ami à elle, parce qu'elle avait besoin de faire une traduction en italien. Une famille qui parlait que italien, donc elle était venue avec un gars d'une autre association qui parlait italien. Il passe le truc où le gars la reconnaît, lui dit vous pouvez y aller, le guetteur. Donc il enlève la barricade, il fait passer la voiture, et au retour, le gars avait changé d'idée, s'est un peu énervé, il a cassé la gueule à l'italien, le pauvre traducteur, au retour, tu vois, donc rien n'est jamais sûr là-dedans. Hein. Donc j'avais eu de la chance que...
Tu as ramené une très belle double page où tu racontes tout ça, avec beaucoup d'émotions.
De l'émotion, et puis on voit quand même un travail à faire, quoi, justement, parce qu'en plus Marseille, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de racisme à Marseille. Il y a notre ami, comment il s'appelle, le sénateur Stéphane Ravier qui se fait entendre ici au Sénat, mais qui fait aussi pas mal de choses là-bas, parce que je crois qu'il était maire du 7e arrondissement de Marseille.
Il n'aime pas les Roms,
entre autres. Enfin, les Roms, c'est presque les plus détestés, parce que ce sont déjà, dans les pays d'où ils viennent, les gens qui ont été mis à part, et qui viennent ici, qui sont doublement mis à part, donc c'est très difficile. En plus, c'est une migration de travail, enfin, économique. C'est parce que la plupart du temps, ils ont encore une petite maison en Roumanie, etc., et puis ils viennent ici pour essayer d'avoir un peu d'argent supplémentaire, quoi. Donc il y a beaucoup de l'extrême droite qui... Parce que je crois que même une des choses qui a motivé un petit peu la création de l'association, c'est quand un des squats avait été brûlé par des gars d'extrême droite.
Ah oui.
Parce qu'on en est à peu près là, quoi. Et elle disait je suis la bête noire de ces gens-là. Quand il y a un vélo qui est volé, on dit que c'est... On vient me voir directement moi, parce qu'on sait que je m'occupe des Roms, et pour rembourser le vélo, quoi. C'est un petit peu, il y a une espèce d'ambiance quand même très très agressive vis-à-vis des Roms. Hein,
ce que tu dis, j'avais constaté quand j'étais allé en Roumanie, et j'avais vu que c'est encore plus décomplexé le racisme à l'égard des Roms qu'en France, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont racistes, mais ça se dit pas ouvertement. Alors qu'en Roumanie, ils s'en foutent complètement, ils sont vraiment décomplexés. Il y a un racisme anti-Roms affiché, quoi, sans scrupule. Hein, ils les détestent vraiment, donc encore plus qu'en France.
Oui.
Récemment, on a vu à Paris, je sais pas si vous avez vu, des TikTokers qui se sont amusés à poursuivre des femmes roms en criant pickpocket pendant des heures, ils les ont poursuivis. Et c'est-à-dire que tout le monde se félicitait, enfin tout le monde exagère, mais on a pu voir sur la toile des gens qui disaient « Ah, super initiative, bravo », etc. Mais en fait, c'est monstrueux, enfin, c'est du pur racisme décomplexé. Quoi. Donc je sais pas si en France on est moins discret, je ne pourrais pas comment le dire, mais...
moins dur.
On est sur
TikTok.
C'est décomplexé ou pas, quoi.
Sur les Roms, je trouve qu'en France, en Rome, on est assez... Sur les Roms, en France, on est assez décomplexé aussi.
En Roumanie, encore plus. Bon,
et c'est pour ça, justement,
en tout cas, les Roms sont ostracisés partout.
Ben voilà, partout.
Parce qu'on peut s'accorder là-dessus, subir ces violences partout.
Ben moi, j'ai vu des gens tout à fait, des petits enfants tout à fait charmants et prêts à être inclus dans le système scolaire. Mais du coup, il faut faire des classes spéciales pour eux, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des classes avec plusieurs niveaux, justement, où il y a quasiment 10 niveaux, 15 nationalités dans la classe, et des classes spéciales, donc pour les aider. Parce qu'effectivement, même en Roumanie, comme ils sont tellement mis au banc de la société, il y en a qui n'ont pas eu accès non plus à l'école là-bas. Donc ils arrivent avec beaucoup de retard. Donc voilà, la double page, et puis le sujet, c'est justement ces enfants roms qu'ils vont réussir à intégrer.
Et puisque tu parles de Marseille,
oui,
parlons de la drogue.
On peut parler un peu de drogue, des opérations, alors, parce que Laure, elle disait, oui, ça met un coup de pied dans la fourmilière, il y en a marre.
C'est pas vrai, elle disait pas ça.
Je dis rien du tout,
elle a jamais dit ça.
Je n'ai pas enquêté sur le sujet.
Ça, c'est les verbes en Italie. Non, c'est place nette.
Place nette, oui. Non, main propre, c'est autre chose.
C'est ce que je disais, la police, elle est mal liée ici, donc on peut pas tout faire contre la drogue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Un truc un peu italien, justement.
Ouais, non, bah, oui.
Antonio Fischetti.
Ça me fait un peu sourire, parce que ça me fait vraiment penser à ce qui a été fait pour la prostitution. Alors, bon. attention, la prostitution, quand on a dit, voilà, c'était Sarko, hein, le premier qui a lancé ça, c'est-à-dire on ne veut plus voir de prostituées dans les rues. Donc très bien, moi j'ai rien contre, je ne dis pas c'est bien ou pas bien, hein. Je constate juste, effectivement, il y avait une prostitution de rue qui n'existe quasiment plus, un peu, mais vraiment quasiment plus par rapport à ce qu'elle était jusqu'à la fin des années 90, où on en voyait sur le boulevard des Maréchaux à Paris, etc. Maintenant c'est beaucoup plus loin en région parisienne, et surtout ça s'est déplacé sur le net. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prostitution, c'est-à-dire qu'on n'est plus visible. Donc on confond ce qui est visible et le phénomène en tant que tel. Il y a autant de prostituées, sauf qu'on ne les voit pas. Alors très bien, les gens qui étaient gênés par des prostituées en bas de leur immeuble ne le sont plus. Pour la drogue, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ce qui est visible et la réalité du phénomène, dans le sens où, effectivement, si on fait place nette, comme ils disent, pourquoi pas. Si les gens sont gênés parce qu'ils ont des points de deal dans leur hall, que les gens soient tranquilles, j'ai rien contre. Très bien. Maintenant, de là à croire qu'on va régler la question de la drogue comme ça, non, puisque c'est exactement la même chose. Ça se déplace sur le net, sur les réseaux sociaux, et même les dealers eux-mêmes le reconnaissent, le disent. Il y a des témoignages, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est le Parisien, où ils disent bon, c'est pas grave, nous, de toute façon, ben, on vous donne notre 06. Au lieu de la vendre dans le hall d'immeuble, ben, ça se fait, ça se déplace sur Telegram, sur WhatsApp, etc. C'est un déplacement qui peut-être alors est bénéfique au vent, hein, aux riverains, oui. Je ne dis pas le contraire.
Riz pensait naïvement qu'il fallait se déplacer encore sur un point de deal pour se procurer de la drogue. Alors je lui disais non,
il est libre.
En soirée, tu peux appeler et puis le gars arrive 10 minutes plus tard.
Mais c'est ça, mais c'est une ubérisation.
T'appelles Uber Sheet.
Voilà, mais c'est une ubérisation qui existe depuis très longtemps. En fait, très longtemps, depuis quelques années quand même, si tu veux. Et puis les premiers à avoir fait ça, moi j'avais vu ça il y a quelques années en Colombie, j'étais étonné parce qu'ils faisaient ça justement. C'était des livreurs et ils disaient déjà que ces livreurs, bah, c'était beaucoup plus pratique parce qu'ils se déguisent comme ici, en marchand de pizza. Et c'est pour ça que souvent les marchands de pizza là, se font arrêter, hein, les livreurs, parce que souvent ils font semblant de livrer des pizzas et en fait c'est des livreurs de coke, tout ça. Donc ça, c'est une
qui font les
supérisation
deux,
ou... peut-être, oui, il y en a qui font coke pizza, mais bon, mais en tout cas quoi qu'il en soit, là, je porte pas de jugement sur l'égalisation ou pas, c'est un autre débat, mais simplement sur le fait, là, le fait est que ça se déplace de quelque chose qui était visible à quelque chose qui ne l'est plus pour le grand public, mais ça existe tout autant. Voilà, c'est les 06 WhatsApp, Telegram, plus les livreurs à domicile déguisés en chauffeurs de pizza.
Bon.
Voilà. Mais après, il faut le savoir. Donc, c'est place nette, c'est quand même surtout médiatique. Disons, si on veut plus que les gens consomment.
Et puis pour les riverains.
Pour l'instant, ils consomment plus, même les riverains le disent. Ça ne nous gêne absolument pas.
Je crois que là où il y a les prises de drogue les plus importantes, c'est pas dans les quartiers, c'est sur le port du Havre.
Mais ça, c'est des grosses quantités. Ouais.
Dans les conteneurs.
C'est deux choses différentes.
C'est à l'arrivée que tu as des énormes quantités.
Les dealers qui dans les cages d'immeubles et tout ça, c'est une chose, ça, c'est la vente au détail. Mais quand ça arrive par cargaison de 300 kilos dans les ports, là, on parle pas de la même chose. C'est des grosses quantités.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en amont, c'est à la livraison sur le continent. Qui peuvent
frais qu'ils échoppent, mais si tu veux,
mais pas la distribution dans les quartiers, c'est déjà trop tard.
Ouais, mais disons ils ont un très faible, même quand ils se félicitent de certaines saisies, c'est très faible par rapport à ce qui arrive. Quand ils ont chopé 300 kilos, ça veut dire qu'il y a des tonnes qui sont pas chopées. Si tu veux, c'est toujours comme ça. Les saisies représentent un pourcentage de ce qui arrive. Même là, il était en Guyane, Macron, il disait les mules, sur chaque vol Cayenne-Paris, tu as plusieurs mules.
Mais tu disais comme ça que. Les grammes autorisés avaient été augmentés.
Oui, ça avait été augmenté. Alors, il faudrait vérifier les chiffres, parce que je crois qu'ils en avaient tellement qu'ils disaient, bon, en dessous de je ne sais plus combien, tant de grammes, on laisse courir, parce qu'on va simplement se concentrer sur les gros. On ne va pas s'embêter à perdre du temps pour le mec qui transporte 100 grammes, vu que de toute façon, on cherche les mecs qui transportent des kilos, quoi. Et sur chaque vol, ils en mettaient plusieurs, des mules. Donc, ils se disent, même s'il y en a une qui se fait choper, il y en a 9 autres qui vont passer. Et du coup, c'est rentable. Pour le trafic, tu vois. Donc faut pas confondre ce qui est visible et puis de toute façon ça se déplace, voilà. C'est maintenant c'est l'ubérisation. C'est l'ubérisation, tant mieux pour les gens qui sont plus emmerdés par les points de deal. Moi je connaissais près de chez moi des points de deal où effectivement ils avaient transformé le hall d'immeuble, j'avais fait un papier dans Charlie en shop. C'est-à-dire vraiment les mecs ils étaient cagoulés, tout ça, ils avaient la queue à l'entrée et puis ils attendaient, ils vendaient, c'était comme c'était une épicerie, quoi. Et donc maintenant c'est plus discret, c'est plus plus, ils font plus ça comme ça, ils sont simplement dans la rue comme ça, voilà. Mais puis après et maintenant c'est Telegram, WhatsApp et livraison à domicile en,
donc, en scooter. Donc y a plus maintenant, il y a plus le contact avec le petit commerçant en fait.
Parce que ça vaut quand même le coup d'aller pouvoir comparer les prix peut-être dans un premier temps.
Mais il y a un alignement, il y a un alignement parce que c'est un alignement des prix et de toute façon. Mais oui, c'est pour ça que si tu veux, si tu suis l'évolution des tarifs depuis les années 80, ça n'a fait que diminuer. C'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible. Quand tu disais la coque, c'est un produit luxe dans les années 80, il n'y avait que le showbiz qui pouvait se le payer. C'était 100 euros le gramme. Il fallait te bosser dans le showbiz, être star, etc.
Mais maintenant, suivez mon regard.
Maintenant, c'est à 60 euros, 70 euros le gramme. Des étudiants peuvent se le payer en payant, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, à 2 ou 3, ils mettent chacun 25 euros. Tu vois, donc c'est devenu beaucoup
démocratique.
Et c'est pareil en Colombie, que je connais un peu. Si tu veux, c'est la production n'a fait que augmenter depuis les années 80, alors qu'il y a eu les plans américains, les plans Colombie, où ils ont arrosé avec du napalm, quasiment, enfin, c'est pas du napalm, mais pas loin, tous les champs et tout ça.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se pose très peu la question pourquoi les gens se défoncent de plus en plus. C'est un peu. C'est quand même ça le nœud du tout. Voilà.
Pourquoi les gens ont besoin de ça, en fait ?
Il y a un tas de métiers où maintenant, tu es obligé de consommer de la cocaïne pour tenir, par exemple, la restauration, les métiers en tension, tout ça, dessinateurs de presse.
Tu crois que c'est ça, toi ?
Oui.
Ou c'est que tu as vu ça, toi ?
Eh ben,
j'ai jamais entendu parler de ça.
Le fait est que dans la restauration, il y a beaucoup de cocaïne.
Mais qu'est-ce que t'en sais ?
C'est des milieux que j'ai côtoyés.
Ah bon ?
Ah oui, effectivement.
Pour tenir. Effectivement. Non, mais quand ils bossent 15 heures par jour, franchement.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de.
Ils sont en vrai, t'as déjà vu des barman, ils sont à fond, jusqu'à 4 heures du matin. Tu crois qu'ils tiennent avec de la tisane ?
Les barman, bon, on barman, attend la réponse du syndicat des barman. On a un procès.
Le marathon des barman avec leur.
La couche.
Voilà.
Qui pensaient que les barman n'étaient qu'alcooliques.
Mais en fait, dans les.
Ça se perd. Ça se perd, l'alcoolisme. C'est remplacé.
Faire des tisanes à la bergamote dans les.
On a encore des députés qui défendent l'alcoolisme. Parce que sinon.
C'est ça, parce que l'alcoolisme, sans problème. Quoi. On a combien ? C'est 49 000 morts par an
Oui, bah, je ne sais pas les chiffres, mais dans cet ordre-là, c'est des dizaines de milliers.
Non, bon, ça se maintient quand même.
C'est quand même étonnant que là, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de place nette dans les.
Si, on te met boire nu à la santé, l'alcool, à boire, consommer modérément.
Il paraît aussi que, en fait, la production d'alcool, comme elle est nationale, elle rapporte de la TVA et donc c'est pas gênant, ça rapporte de l'argent à l'État, alors que la production de coke, tout repart à l'étranger. C'est-à-dire tout ce qui est vendu, ça va à l'étranger. Donc l'État voit des milliards de ventes de coke ou de drogue qui lui échappent en termes d'impôts, en fait. C'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai.
Et puis même pour le shit,
c'est pareil.
Les grands trafiquants de shit, c'est des mecs qui sont à Dubaï.
Donne des noms.
C'est des mecs qui sont à Dubaï, quand t'es pas là, c'est
encore un autre procès.
Avec leur téléphone,
des téléphones en or.
Avec leur téléphone, règlent leur.
Avec un petit chat blanc sur les genoux.
Ils règlent le business et puis ils décident et ils demandent, enfin toi, des règlements de compte, qui tu vas éliminer un tel.
Non mais là, t'as regardé trop de séries à la télé. La
Colombie,
non,
qui parle.
Regarde, le Lille Parisien a fait tout un dossier là-dessus. Et le mec, il a été arrêté au Maroc, là. Il y en a un récemment, comment il s'appelle ?
Ne
il
donne pas de nom.
Il a été arrêté au Maroc.
Mais il est présumé innocent. Il est présumé innocent.
Un dealer, c'est le clan des je sais plus comment,
Yoda.
Le boss Yoda, il était arrêté au Maroc, il dirigeait tout. Il y en a un autre qui dirigeait tout depuis ça.
Putain, mais t'en sais des choses, toi.
Mais je lis les journaux.
Il est tellement défoncé qu'il parle à l'envers, comme le maître Yoda.
Bon, ben voilà, je crois que c'est réglé.
On a fait le tour de tout reste à faire, apparemment, dans la drogue.
Hein ?
Dans la drogue, tout reste à faire, tout reste à solutionner.
Oui,
mais,
oui.
Mais c'est un secteur qui se réinvente de jour en jour. Tous les jours.
Mais c'est ça. C'est en ça que c'est un secteur capitaliste qui sait s'adapter au marché, voilà, et à la contrainte. Tu vois, donc c'est en perpétuel.
Le territoire.
C'est pas avec une place nette de Darmanin
qui propose en permanence de nouveaux produits.
Oui, qui s'adapte.
Alors Gérard me disait que la meilleure bœuf est dans la country.
Non, il paraît que, enfin, c'est vérifié par un nombre incalculable de chanteurs que la meilleure bœuf des États-Unis, c'est celle de Willie Nelson. C'est celle que fabrique Willie Nelson. Mais depuis
qu'il la fabrique.
Ah oui, il l'a fait lui-même. Il l'a fait pousser dans son ranch du Texas sans problème. Et elle est connue sur tout le territoire musical américain.
Et elle était saluée récemment par
Snoop Dogg. Snoop Dogg en personne est venu au concert des 90 ans de Willie Nelson l'an dernier dire sur scène que la meilleure bœuf du pays c'était Willie qui la faisait pousser.
Ça conserve bien. Voilà.
Ça conserve très bien. Ouais, oui. Ça conserve très bien.
Parce que regarde les mecs qui sont au vin rouge, s'ils atteignent 90 ans, état ils sont. Tandis que là, voilà. Voilà. Donc nous saluons les producteurs de bœufs qui nous écoutent et longue vie à Willie Nelson.
Bon conseil du podcast de Charlie.
Bien évidemment. Toujours un conseil main tendue aux jeunes qui ont envie de se défoncer. Et peut-être lever un peu le nez des journaux et puis faire autre chose. Eh bien bon,
ça va trop vite.
On va être censuré là, hein, ouais.
Absolument pas, enfin j'espère pas. Par qui
Mais
j'ai vu les chiffres des auditions du podcast, on peut y aller, je pense. On a repéré, je pense. Eh bien donc, à la semaine prochaine, au revoir à tous, merci.
Salut.
Au revoir.
Salut.